Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 30 juin. Ben oui, c'est la dernière journée de juin. Comme le temps passe vite, hein? Le temps passe et nous vieillissons.
L'été va commencer un moment donné.
Oui, un jour.
Ça va arriver. Nous sommes près de l'été. Je vous avais entendu la voix de mes comparses qui vont vous entretenir de toutes sortes de sujets intéressants. Donc, Marie, je parle à Marie Lalande.
Et bonjour, aussi, Michel.
Et à Yvan Deslauriers.
Bonjour à tous.
Donc, vos sujets aujourd'hui.
Alors, moi, dans un premier temps, je vais vous parler de la carcasse d'une baleine noire dans le Saint-Laurent, qui intéresse beaucoup, beaucoup les scientifiques.
Oui.
Et en deuxième partie d'émission, d'abord de lumière qui peut être mortelle pour les oiseaux et d'une invention au Maroc qui transforme le brouillard en eau potable.
Oh, c'est intéressant, ça.
Mm-hmm.
Oui. Ton côté, Yvan?
De mon côté, je vous parle des écouteurs à vélo. On pense que c'est évident qu'on ne peut pas avoir d'écouteurs à vélo,
ouais,
mais j'ai regardé des études scientifiques, c'est pas si évident que ça.
Ah.
Et puis, vous allez voir aussi que c'est pas partout aussi qu'il y a de cette interdiction-là.
Mmh. Ah bon?
Puis, mon deuxième sujet, c'est moi aussi avec la lumière, mais c'est beaucoup l'effet de la lumière sur ce qu'on fait, ce qu'on est, sur notre environnement, etc.
Donc, ça va être lumineux.
Ça va être très, très lumineux, soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, mais ça va être lumineux. Alors, toi, Michel, qu'est-ce que tu vas faire?
De mon côté, je vais vous parler d'un chantier, un chantier qui a été interminable. Vous savez, j'ai parlé des grands chantiers dans le monde, la Kingdom Tower et autres choses. Aujourd'hui, j'aborde le canal de Panama. Mais le canal de Panama, la première version, qui est quelque chose de très... parce qu'il y en a un deuxième qui s'en vient. Donc, la première version du canal de Panama, vous allez voir, c'est assez intriguant. Et selon mes bonnes habitudes, vous amène en voyage. Et cette fois-ci, à Tolède.
Un pays de lumière.
Ah, absolument. Tout à fait. Bah, restez avec nous. Vous allez apprendre toutes sortes de choses. Donc, un premier chantier interminable. C'est tiré de Science et Vie, une édition hors série. Ça date de décembre 2014, mais c'est toujours à date. Hein? Ces chantiers-là sont encore à date.
Actuels.
Mais actuels, c'est ça. Mais dans le cas présent, c'est le premier chantier du canal de Panama. Nous sommes en 1876. Ça fait 7 ans que le canal de Suez a été inauguré en Égypte. Et auréolé de ce succès extraordinaire, historique, l'entrepreneur français, Ferdinand de Lesseps, il se pose un autre défi très ambitieux. Creuser au Panama l'étroite bande de terre qui est seulement 80 kilomètres qui sépare l'Atlantique du Pacifique. Alors, les financiers ne doutent guère de la bonne fortune de l'entreprise après ce qu'il a fait à Suez. Alors, en 1880, la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama est créée. Et c'est doté d'un capital conséquent de 600 millions de dollars. Vous imaginez, hein? On est en 1876. 600 millions de dollars, dont la moitié provient d'emprunts massivement souscrits par des petits porteurs, par le public, autrement dit. Elle inaugure immédiatement des travaux prévus pour durer 8 ans. Donc, on prévoit que ça sera terminé en 1888, si vous me suivez bien. Il y a une cordillère qui est haute d'une centaine de mètres, qui barre la route vers le Pacifique. Alors, comment la franchir? Ben, les ingénieurs imaginent une série d'écluses pour passer plus facilement l'obstacle, ce qu'on a actuellement. Mais Ferdinand de Lesseps n'en démord pas. Son canal doit rester comme celui de Suez, donc, au niveau de la mer. Alors, il est contre les ingénieurs, autrement dit. Et c'est donc la roche qu'on va creuser. Il décide de percer au point le plus bas dans le passage qu'on appelle la culebra. La culebra, ça veut dire le serpent en espagnol. Et ça va vraiment être un nom prémonitoire. Et ça va se révéler un serpent mortel, un piège. Les glissements de terrain s'enchaînent, obligeant à entailler la montagne plus largement que prévu. Les frais explosent, bien sûr. Tandis que dans l'enfer panaméen, des ouvriers caribéens meurent chaque jour. Vous savez de quoi? Ils meurent de paludisme ou d'une autre maladie qui rend le teint jaune. On ne savait pas ce que c'était, c'est la fièvre jaune. Hein? Mm-hmm. Et quant aux survivants, à chaque saison des pluies, ils voient le Rio Chagres monter de plusieurs mètres et ramener la boue péniblement extraite.
Mm-hmm.
Donc, on creuse et la boue revient. Au bout de 5 ans, le chantier n'est rien d'autre qu'un évident désastre. Il y a 10 % du canal qui a été creusé au bout de 5 ans. À de Lesseps aux abois, il ment aux actionnaires, achète la presse et les députés. Vous imaginez, hein? Mm-hmm. En février 1889, la compagnie fait faillite. 1889, le canal, rappelez-vous, était censé être terminé en 1888. Alors, ça provoque l'un des plus gros scandales politico-financiers de l'histoire. Bilan, jusqu'à maintenant, on est nulle part, là. Et le bilan, c'est 20 000 morts et 80 souscripteurs, dont on a parlé, des petits souscripteurs, ruinés. Un gouvernement français qui tombe sous des accusations de corruption. Quant au canal, ce n'est qu'une plaie boueuse dont la jungle reprend possession. Autrement dit, on n'est à rien.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les travaux reprennent?
Et voilà! En 1903, les États-Unis remettent le projet en selle. On est rendu en 1903. Et le président Roosevelt rachète les infrastructures pour 40 millions de dollars. Il verse 10 millions au jeune État du Panama qu'il vient d'aider à obtenir son indépendance. Et il obtient la concession à perpétuité. En 1905, il charge un ingénieur des chemins de fer de transformer cette tranchée de boue en route transocéanique. C'était ça, sa mission. L'ingénieur y met toute la puissance industrielle de l'Amérique. C'est fini de creuser à la pioche et au seau. Des extractrices mécaniques mobiles extraient des tonnes de roches et des trains évacuent pour prévenir les éboulements. En une journée, les Américains enlèvent plus de terre que les Français en un mois. Imaginez, hein? Mais reste l'ennemi invisible, le paludisme, la fièvre jaune. Un ennemi que le docteur en chef connaît bien parce qu'il vient de l'éradiquer à Cuba en s'appuyant sur une nouvelle théorie.
Une nouvelle théorie?
Oui, c'est qu'on ne savait pas que c'était le paludisme était apporté par les moustiques. Et c'était la théorie qu'il a avancée à ce moment-là. Armé de 4000 hommes, il mène une guerre totale contre l'insecte. Il enfume les villages, pulvérise des insecticides dans les marais et équipe les baraquements de moustiquaires.
Un gros remède.
Et c'est un succès. La fièvre jaune et paludisme disparaissent en quelques mois et ça permet de poursuivre la percée à coups de dynamite. En 1906, les pluies diluviennes et la montée du rio Chagres ruinent plutôt ses efforts. Et une fois encore, tout est à refaire. On est en 1903. On avait dit 1888. C'est alors que ressort des cartons le projet déjà envisagé par des ingénieurs français, dont Gustave Eiffel était parti de ceci, et auquel Ferdinand de Lesseps avait fini trop tardivement par se résoudre, juste avant la faillite. C'est un gigantesque barrage et faire de même du côté pacifique et atlantique et un système d'écluses qui monte les bateaux de 26 mètres. C'était le projet initial des ingénieurs. Alors, Roosevelt se rend au Panama pour appuyer ce choix. Et tout à coup, il y a la démission inexpliquée de l'ingénieur en chef en 1907. Et c'est un autre coup dur. Et enfin, le chantier accumule les records. Haut comme un immeuble de 6 étages, les écluses sont les plus grandes structures en béton jamais construites à l'époque. Alors, de 5 000 à 6 000 ouvriers supplémentaires paieront de leur vie l'achèvement. Donc, on a eu 25 000 morts. Et en 1914... l'ouvrage devient légendaire. On parlait de 1888, on a plus de 25 ans
de retard.
C'est absolument incroyable. C'est pire que le CUSUM à Montréal, je vous dirais. Donc, c'est pas nouveau. C'est attiré de Science et Vie en série, décembre 2014.
Alors, dangereux les écouteurs à vélo? Au Québec, on admet que se balader à vélo avec des écouteurs, c'est dangereux. Pourtant, la science hésite à le confirmer. C'est un article écrit par Maxime Bilodeau dans la revue Vélo Urbain de juin 2015. Je ne savais même pas qu'il y avait une amende pour ça, s'exclame une cycliste interceptée en flagrant délit de porter des écouteurs. Pourtant, l'article 440 du Code de la sécurité routière du Québec est on ne peut plus clair. Le conducteur d'une bicyclette ne peut porter un baladeur ou des écouteurs lorsqu'il circule, hormis si ces derniers servent à l'échange de conversation. Cette cycliste risque une amende de $52. Le service de police de la Ville de Montréal explique que cette interdiction explique cette interdiction en faisant valoir qu'il faut être en mesure de bien entendre ce qui se passe autour de soi. Selon le SPVM, le fait de circuler à bicyclette sans écouteurs rend plus apte à anticiper les dangers sur la route et à y réagir en conséquence tout en bénéficiant d'un temps de réaction plus long. Autrement dit, les oreilles agiraient comme une deuxième paire d'yeux pour le cycliste, lui permettant de mieux percevoir les véhicules à moteur et ainsi d'éviter les accidents. À la Société d'assurance automobile du Québec, on met plutôt de l'avant le principe de protection des usagers vulnérables pour justifier cet interdit. Le cycliste doit adopter un comportement prudent et respectueux envers tous les usagers de la route, y compris ceux plus vulnérables, comme les piétons.
Et cet article-là, il a été adopté quand?
Dans les années 1980, quelque temps après l'invention d'un désormais célèbre antique Walkman.
Ah oui, 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 oui.
Cet article n'a jamais été revisé depuis.
Quand même.
Devrait-il l'être? Sur la poignée d'études qui ont analysé l'effet des écouteurs sur les comportements des cyclistes, la majorité aboutit à des conclusions ambivalentes. Par exemple, une étude danoise publiée en 2010 rapporte que comparativement à des cyclistes utilisant un téléphone mobile, les cyclistes avec et sans écouteurs dévient moins de leur trajectoire, sont plus alertes et ressentent moins de fatigue mentale. Dans toutes les conditions, le comportement des cyclistes qui écoutent de la musique à partir d'un MP3 est identique à celui d'un groupe contrôle dénué d'écouteurs.
Ah, c'est étonnant.
Une autre étude, parue l'année suivante, apporte toutefois quelques nuances. Leur principale conclusion semble cette fois confirmer les inquiétudes. Pédaler avec des écouteurs interfère avec la perception des signaux auditifs. Mais seul le recours à des écouteurs intra-auriculaires, l'écoute de musique forte et rythmée ou une combinaison de ces deux conditions entraînerait une hausse du risque selon les chercheurs. Et recourir à un seul écouteur ou utiliser une paire d'oreillettes pour écouter de la musique à volume normal serait sans risque.
Ah bon?
De manière générale, l'effet des écouteurs sur le comportement des cyclistes est de faible à modéré, tandis que l'utilisation d'un téléphone mobile ou d'un appareil intelligent pour mener une conversation ou pour texter est plus dangereuse, disent-ils.
Ben, pour texter.
Pour texter, c'est ça.
Je m'en doute un peu.
D'ailleurs, en 2013, une chercheuse a même démontré qu'il est plus périlleux de parler à un collègue cycliste situé à quelques mètres de soi que de pédaler avec des écouteurs vissés aux oreilles. Bon. Avec le Manitoba, le Québec est la seule province au Canada qui a légiféré en ce sens. Et hormis quelques États, cette pratique est permise chez nos voisins du Sud. Même chose au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, où l'usage du vélo est pourtant très répandu. Pardon. Le docteur Dick DeVard, auteur et co-auteur de la majorité des études sur le sujet, travaille à l'Université de la ville de Groningen, au nord des Pays-Bas. Selon lui, c'est surtout la difficulté pour les autorités de faire respecter une législation anti-écouteurs qui a poussé plusieurs pays à ne pas en adopter. Comment la police peut-elle distinguer un cycliste qui porte des écouteurs pour converser d'un autre qui écoute de la musique? C'est pratiquement impossible. Qui plus est, le rythme d'évolution de la société est tel qu'il est aujourd'hui pratiquement impossible de légiférer en conséquence. Il y a eu l'émergence des téléphones intelligents qui a déjà considérablement brouillé les cartes. Et puis, dans les prochaines années, il y aura les véhicules électriques silencieux qui rendront la tâche encore plus ardue. Sans oublier les lunettes intelligentes comme Google Glass. À mon avis, les cyclistes ne s'en vont pas vers des jours plus sécuritaires, bien au contraire.
Je me demande, les personnes sourdes, dans le fond, comment elles réagissent en vélo?
Alors, l'article parle d'une situation comme ça. Elles ont... celui qui a écrit l'article a contacté Jean-Marc Major, qui est sourd de naissance. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'enfourcher sa bécane pour s'entraîner. Interrogé quant aux répercussions de son handicap sur sa pratique cycliste, l'homme insiste pour dire qu'il peut être compensé. Le cycliste sourd cherche toujours à améliorer l'étendue de son champ visuel sans avoir à tourner la tête dans tous les sens pour repérer les risques. Un cycliste sourd ou non, qui roule peu, qui regarde continuellement derrière lui, risque de dévier de sa ligne et de s'exposer au danger. Selon lui, le seul fait pour un cycliste sourd de se promener améliore la capacité à voir le danger, mais surtout à garder son sang-froid en situation d'urgence. Lorsqu'un fardier arrive de l'arrière et nous frôle presque, je vous prie de me croire que c'est une expérience effrayante. Pourtant, avec le temps, on apprend à rester calme et à bien réagir lorsque le monstre surgit. Avec l'avancée des technologies, plusieurs sourds profitent désormais des écouteurs, comme pour les personnes sans handicap, tout en étant sujets au même risque de distraction. Je crois cependant que les personnes sourdes sont grandement favorisées par leur grande capacité d'attention visuelle continue, souligne Jean-Marc Major. Je vous lisais l'article « Dangereux, les écouteurs à vélo », un article écrit par Maxime Bilodeau dans la revue Vélo urbain de juin 2015. C'est une revue gratuite qu'on peut trouver dans tous les commerces de vélo.
Je voudrais voir la mer et ses plages d'argent et ses falaises blanches fières dans le vent. Je voudrais voir la mer et ses oiseaux de lune et ses chevaux de brume et ses poissons volants. Je voudrais voir la mer quand elle est un miroir où passent sans se voir des nuages de laine et les soirs de tempête dans la colère du ciel. Entendre une baleine appeler son amour. Je voudrais voir la mer avec elle pour défier la mort. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Son or et ses canons pour entendre le rire de 100 millions d'enfants qui n'ont pas peur de l'eau, qui ont envie de vivre sans tenir un drapeau. Je voudrais voir la mer, ces monstres imaginaires, ces Hollandais volants et ces bateaux de guerre, son cimetière marin et son lit de corail où dorment les requins dans des draps de satin. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Je voudrais voir la mer et danser avec elle. Je vis dans une bulle au milieu d'une ville. Parfois mon cœur est gris et derrière la fenêtre je sens tomber l'ennui sur les visages blêmes et sous les pas pesants que traînent les passants. Alors du fond de moi se lève un vent du large,
Oh, c'est presque péché de parler après ces notes-là. Hein?
Oui. Mmh.
Je voudrais voir la mère de Michel Rivard.
Ben oui.
Alors, c'est une belle introduction pour le texte que je vous présente, dont le titre est « En Gaspésie, la carcasse d'une baleine noire fascine les experts ». C'est un texte de Audrey Ruel-Manceau, publié le 26 juin dans la presse. Une opération titanesque était en branle récemment en Gaspésie, où une carcasse de 50 tonnes devait être transportée vers un dépotoir. Le cadavre d'une baleine noire de l'Atlantique Nord, aussi appelée baleine franche, a été découvert mercredi dernier au large de Percé. Cela laisse croire aux experts qu'elle sera une mine de renseignements pour décrire cette espèce en voie de disparition. La carcasse de l'animal dérivait entre l'île Bonaventure et le Cap Blanc lorsqu'un plaisancier l'a repérée. L'observation de cette espèce à l'état vivant est déjà rarissime. Il ne reste que 500 individus dans le monde. Alors, cette découverte donne beaucoup d'espoir aux experts. Ce sera intéressant de pousser l'investigation et de faire l'acquisition de connaissances physionomiques et physiologiques sur cet animal-là, a expliqué Josiane Cabana d'Urgence Mammifère Marin. Nous avons très peu d'informations sur la baleine noire, alors nous en profiterons pour prendre une tonne de mesures.
C'est le cas de le dire, hein?
Tout à fait.
Oui.
La carcasse a dû être sortie de l'eau pour que les scientifiques puissent procéder à la nécropsie et au dépeçage du cétacé. Déplacer une baleine de 17 mètres de long et pesant 50 tonnes nécessite une logistique hors du commun.
Oui, il s'agit d'un parcours pas mal long et pas mal complexe.
Et en effet, oui. D'abord, la baleine a été remorquée par un navire de croisière en fin de journée, mercredi dernier. Elle a été tirée jusqu'à Lance à Beaufils, où elle a passé la nuit ancrée au fond de la mer. Jeudi, un bateau l'a remorqué jusqu'à la ville de Newport, un peu plus au sud. La gigantesque carcasse a dû être extirpée de l'eau grâce à un treuil et a été installée sur un camion-remorque. Elle a été transportée dans un dépotoir de Caplan où l'équipe de Stéphane Lair de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal doit procéder à la nécropsie. L'un des objectifs de cet examen est de déterminer si l'activité humaine peut être responsable de la mort de l'animal. Une des causes les plus importantes de la mort des baleines noires, ce sont les collisions avec les navires et les empêtrements dans les engins de pêche, explique le docteur Lair, qui espère que la baleine soit encore en assez bon état pour qu'il puisse déterminer ce qui a causé sa mort. Après, ils procéderont à une autopsie standard pour voir s'il y avait une infection ou des parasites et autres éléments du genre. Une équipe du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM, sera aussi sur place pour dépecer la baleine. Le squelette sera par la suite transporté au Centre d'interprétation des mammifères marins à Tadoussac, où il servira à des fins éducatives. Ça enrichira la collection, qui est déjà très intéressante. La baleine franche a un crâne qui fait pratiquement le tiers de son corps. Alors, juste au niveau visuel, ça sera très impressionnant. La nécropsie et le dépeçage seront pratiqués directement au dépotoir, où il sera possible d'enfouir immédiatement les matières organiques.
Alors, si je comprends bien, cette baleine-là a fait partie des espèces en péril.
Oui, tout à fait. Des 13 espèces de cétacés qui se trouvent dans le Saint-Laurent, 7 sont en péril. Pour stopper le déclin alarmant de certaines populations, comme celle de la baleine franche, des experts ont mis sur pied des programmes de rétablissement. Certaines baleines sont aussi protégées par la loi sur les espèces en péril, la LEP, qui vise à prévenir leur disparition ou à permettre leur rétablissement. La population de baleines noires de l'Atlantique Nord, qui a été décimée par la chasse à la baleine, a été ajoutée à la liste des espèces en voie de disparition de la LEP en janvier 2005. Fait intéressant, la baleine dont on parle dans cet article a été identifiée par l'équipe du New England Aquarium de Boston. La femelle, qui a été nommée Piper, est connue des scientifiques depuis 1993. À deux reprises dans sa vie, elle s'est empêtrée dans des filets de pêche et elle faisait partie d'un programme de parrainage. Piper a eu 3 bébés. Le dernier est né en 2013. Il y a donc des chances qu'un fœtus soit découvert lors de l'autopsie. Alors, l'opération pour sortir de l'eau le cadavre de Piper a été avérée beaucoup plus longue que prévu. La carcasse a dévoilé un potentiel scientifique encore plus grand que ce que laissait entrevoir la découverte de ce rare spécimen. Une fois sortie de l'eau, on a constaté qu'elle avait encore tous ses fanons. Il y a même des organismes aux États-Unis qui ont demandé des échantillons. Les fanons, ce sont les espèces de dents de certaines baleines qui garnissent la mâchoire et laissent circuler l'eau tout en retenant les éléments nutritifs. Sur une carcasse, ils peuvent révéler les habitudes alimentaires de la baleine et même contenir des traceurs chimiques. Alors, des informations supplémentaires. Alors, la dernière mention de baleine noire retrouvée morte dans le Saint-Laurent remonte à 2001 aux îles de la Madeleine. Voilà. C'était un article de Audrey Ruel-Manceau, publié le 26 juin dans la presse.
Écoutez Kiosque Magazine.
Alors, je vous amène faire un petit tour à Tolède.
Oui.
Magnifique endroit sur un promontoire. C'est vraiment une ville à visiter. C'est Renaud Loranger qui nous en parle dans la presse du 25 avril. C'est véritablement un creuset d'influences chrétiennes, juives, musulmanes. C'est un carrefour culturel de l'Espagne au Moyen Âge aussi. Et c'est la terre d'élection de Greco. Le peintre. Tolède est surnommée la Jérusalem de l'Ouest en raison de ce métissage millénaire qui a fait une destination véritablement à part sur la péninsule ibérique. Et c'est tout près de Madrid. Mm-hmm. Donc, il faut aller faire un petit détour par Tolède. On traverse le pont de l'Alcantara, qui nous sépare de la vieille ville, et c'est véritablement agrippé à un massif rocheux où elle surplombe la vallée du Tage, El Tajo. La nouvelle porte de Bisagra, c'est bien qu'elle soit d'origine mauresque, a été terminée en 1559. Beaucoup d'influence mauresque mm-hmm. dans la région. Pour les curieux, la Puerta de Bisagra Antigua a été érigée au 10e siècle sous le califat et ça vaut véritablement le détour. D'ailleurs, chacun des endroits qui est mentionné ici vaut la peine mm-hmm. d'être visité. Vous avez classé au patrimoine mondial de l'UNESCO la cathédrale Sainte-Marie, Santa Maria, bien sûr, qui a été bâtie en 1226 à l'emplacement même de la grande mosquée de l'époque du califat. Il y a beaucoup de chevauchements entre les édifices mauresques et des édifices catholiques aussi. Mm-hmm. L'édifice, c'est le résultat de travaux qui ont duré plus de 2 siècles. Et ça comporte des éléments qui appartiennent au style gothique français, rayonnant, flamboyant. Et sa décoration intérieure attache plutôt à la Renaissance et au baroque. Donc, toutes sortes d'influences différentes. Vous avez l'église Santo Tomé, qui est représentative du style architectural mudéjar. Le style architectural mudéjar, c'est l'application de techniques et de matériaux d'origine musulmane à des églises chrétiennes, ce qu'on retrouve couramment en Espagne. L'église Santo Tomé renferme, et c'est une raison pour laquelle elle était importante aussi, renferme en sa nef la toile monumentale du Greco, qui est l'enterrement du comte d'Orgas, qui est un chef-d'œuvre absolu de la peinture. Mm-hmm. Vous avez l'Alcazar de Tolède aussi. Ah.
Qui
vaut le détour.
Qu'est-ce que c'est,
l'Alcazar de Tolède, c'était la résidence royale de Charles Quint, Carlo Quinto. Alors, de la prise de la ville en 1085, les chrétiens ont restauré la forteresse arabe, située au cœur de Tolède, et l'ont utilisée comme un rempart militaire. Mm-hmm. Donc, c'est véritablement une forteresse. Et ça a été transformé en résidence par la suite. Au 16e siècle, l'Alcazar recueille aujourd'hui le musée de l'armée. Musée Santa Cruz. Remarquable. Pour son alliage d'éléments architecturaux gothiques. Et le musée de Santa Cruz est incontournable pour son cloître et certaines pièces d'art religieux, particulièrement flamands. Un nombre de toiles du Gréco aussi, mm-hmm. qu'on retrouve un petit peu partout. La célèbre tapisserie dite Astrolabe, mm. pour les connaisseurs. Vous avez la synagogue Santa Maria la Blanca. Curieux nom pour une synagogue, hein?
Oui, puis je pense qu'elle a quelque chose de particulier, cette synagogue-là.
La synagogue, c'était le principal lieu de culte pour la population juive de Tolède jusqu'en 1405. Donc, vraiment synagogue. Date de son appropriation par Saint-Vincent Ferrier. Et elle a été transformée à ce moment-là en cathédrale. Qui était Santa Maria la Blanca, Sainte-Marie la Blanche, était réputée la plus belle synagogue d'Espagne, transformée en cathédrale. Et paradoxalement, influencée par le style mudéjar, dont on a parlé précédemment, et ça ressemble plutôt à une mosquée qu'à une synagogue. Donc, synagogue...
Il y a beaucoup d'influence.
Qui est devenue une cathédrale, mais qui ressemble à une mosquée, qui est typique dans le coin de Tolède. Et on retrouve aussi la même chose à Séville. C'est un monument symbolique de la coexistence des trois grandes religions, bien sûr. Dominikos Theotokopoulos, vous connaissez bien?
Pas personnellement.
Non, vous ne l'avez pas rencontré. C'est le Gréco. El Gréco.
Ah, c'est lui.
Ben oui, un nom grec, bien sûr. Il est né en Crète en 1541. Il s'est établi à Tolède un peu plus tard, après des séjours à Venise et à Rome. Et sa peinture est révolutionnaire pour l'époque. Il a eu une influence décisive sur nombre d'artistes, même des artistes qu'on connaît bien maintenant, des siècles plus tard, entre autres choses, Pablo Picasso, mm-hmm. qui n'a pas toujours fait du cubisme, Pablo Picasso. Mm-hmm. Hein. Non, une partie de son œuvre est préservée entre les murs de sa résidence tolédane. De Tolède. Il y a aussi la mosquée Cristo de la Luz, le Christ de la lumière. J'aime la consonance espagnole. Oui, le Cristo de la Luz, c'est merveilleux. Aujourd'hui, c'est converti en musée. La mosquée d'origine est située à proximité des remparts de la vieille ville et ça demeure l'un des monuments les plus remarquables. Sa construction ayant débuté en 999. Et son nom chrétien actuel a remplacé son nom d'origine. Je ne vous le mentionnerai pas à cause de mon accent qui peut être un peu pénible. Vous avez un autre nom que j'aime, monastère San Juan de los Reyes, Saint-Jean des Rois. Ben, à cause des rois très catholiques, vous connaissez, c'était leur appellation, oui. Les rois très catholiques, qui étaient Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, qui ont commandé la construction en 1477. Donc, une ville-musée, en fait, Tolède, mm-hmm. et un site magnifique. Lorsqu'on arrive à Tolède, on voit le promontoire, je ne peux pas oublier, entouré du Tage. C'est vraiment un endroit à visiter, tout près de Madrid. Hein. C'est Renaud Laranger qui nous en parlait dans la presse du 25 avril.
Alors, moi, je m'en vais, je continue à aller vers la lumière, là, avec ce dont tu nous as parlé.
La Luz.
La Luz. Alors, je vous lis un article qui s'appelle « Éclat de lumière, la vie humaine modelée par le jour ». C'est un article paru le 27 juin par Monique Durand, collaboratrice au journal Le Devoir. Et c'est le premier d'une série d'articles. Et j'aimerais avoir, au point de vue des auditeurs, j'aimerais avoir votre opinion sur ce genre d'article. La lumière est au cœur de ce qui fait de nous des humains. Elle est un phénomène physique, mais aussi une construction culturelle, insaisissable sans son corollaire, la noirceur. Tous les matins sont des recommencements du monde parce que revient la lumière. Même pour Marie-Odile, cette vieille dame vivant depuis des années dans un CHSLD au nord de Montréal, qui ne marche plus, ne lit plus, n'écoute plus ni télé ni radio. Sa seule distraction, c'est la lumière qui la baigne, bleue, rose, jaune, blanche, noire, filtrant de sa fenêtre où s'égrènent les saisons. À 88 ans, elle renaît, dit-elle, à chaque matin du monde qui pointe dans sa petite chambre où ne subsiste de son ancienne vie qu'une lampe déglinguée et une photo de ses sœurs. Lumière. Comment ne pas la voir, tous éclaboussés de son éclat, en ce matin du 6 juin, dans le grand hall de la Caisse de dépôt et placement à Montréal, serre immense qui accueille la dépouille de Jacques Parizeau. Le vert des arbres tangue au dehors, enveloppant comme un nénuphar les roses blanches et le bleu du Québec transformé par les rayons. Tandis qu'on défile pour lui rendre hommage, Monsieur est au repos dans cette lumineuse et salvatrice beauté.
À part l'impact visuel, la lumière influence beaucoup d'autres aspects de nos vies, non?
Effectivement, nous sommes faits de lumière. Physiquement d'abord, elle est essentielle à la vie sur Terre. En plus de nous éclairer et de nous réchauffer, le soleil contribue par le processus de la photosynthèse à produire l'oxygène qui nous est vital. Le rythme lumière-noirceur affecte comme rien d'autre la santé et le bien-être des humains, explique une doctorante à l'École polytechnique de Lausanne lors d'un récent colloque portant sur la noirceur dans le Nord. En plus de nous faire voir ce qui nous entoure, la lumière entraîne une série d'effets physiques et comportementaux qui vont de la qualité du sommeil à la production d'hormones, à la performance cognitive et à la faculté de vigilance. La lumière est une onde électromagnétique. Ce qui est visible à nos yeux n'est qu'une partie du spectre électromagnétique qui comprend également les ondes radio, les micro-ondes, le rayonnement infrarouge, les rayons UV, X et gamma. Diverses technologies utilisent différentes parties de ce spectre. Par exemple, le Wi-Fi utilise des ondes radio. Les téléphones cellulaires utilisent plusieurs technologies reliées à l'optique et à la photonique. Au Canada, l'industrie des sciences liée à la lumière emploie 20 000 personnes et rapporte annuellement plus de 4,5 milliards de dollars. Si la lumière est un phénomène physique, elle est aussi un phénomène culturel. Les notions de lumière et de noirceur sont davantage une question de perception nourrie par notre éducation et nos habitudes qu'une question de couleur du ciel et de degrés plus ou moins élevés de clarté, explique un philosophe islandais. En Islande, par exemple, les longs soirs d'hiver ont modelé une culture d'endurance à la noirceur et d'obstination à vivre et à agir malgré le noir. La géographie de la lumière contribue à nous définir individuellement et collectivement, teintant nos psychés, nos modes de vie, nos politiques, nos cultures et nos littératures. Au nord du globe vivent des peuples perpétuellement assoiffés de sa bienfaisance. Il faut voir dans nos villes, dès que se pointe un semblant de printemps, ces terrasses bondées côté soleil, petits agrégats semés d'un seul côté de la rue, buvant goulûment les rayons et les expressos. Pourquoi les Nations unies ont-elles proclamé une année internationale de la lumière, AIL, en 2015? Pour sensibiliser les citoyens du monde entier à l'importance dans leur vie quotidienne de la lumière et des technologies qui y sont associées, telles l'optique, dit le site officiel de l'AIL. La lumière a révolutionné la médecine, y poursuit-on, et ouvert la communication internationale via Internet.
Et pourquoi ont-ils choisi 2015?
C'est pour marquer deux anniversaires importants. Il y a d'abord 100 ans, il y a 100 ans exactement, en 1915, un monsieur qui s'appelait Einstein, qui démontrait avec sa théorie sur la relativité que la lumière était au centre des notions d'espace et de temps. Et il y a 1000 ans, vers 1015, le scientifique arabe, puis là j'ai travaillé fort, Ibn al-Haytham,
bravo,
je pense, écrivait son célèbre traité d'optique qui allait marquer l'histoire de la science. Mais cette année spéciale vient aussi rappeler que 1,3 milliard d'humains sur le globe s'éclairent encore avec des lampes au kérosène. Sitôt évanouis au dernier feu du jour, ils sont plus d'un million et demi à en mourir chaque année pour avoir inhalé ces vapeurs mortifères. Dans les pays en développement, les familles dépensent une large part de leurs revenus en kérosène. Des centaines de millions de jeunes, passés le coucher du soleil, sont contraints de lire et d'écrire sous une lueur blafarde. Le développement de ces sociétés passera forcément par l'éclairage de leurs maisons, de leurs écoles et de leurs cités, assurant aux populations plus de sécurité, d'éducation, de productivité, une meilleure qualité de vie en général. Peut-être avons-nous, chacun, chacune, notre lumière, celle qui nous fait qui nous sommes. Marquant de son éblouissement des moments charnières, des carrefours de vie, des nouveaux élans.
Je me permets d'ajouter juste un petit mot.
Vas-y.
Je suis venu à Vues et Voix il y a 21 ans, qui était la magnétothèque à l'époque, après avoir rencontré un de mes beaux-frères qui était aveugle. Par hasard, j'ai rencontré, je ne savais pas qu'il était aveugle. Et je lui ai demandé quel était le, ce, qu'est-ce qu'il y a dans sa journée? Et il m'a dit, je lis des livres de la main intothèque. C'est le soleil et la lumière de ma journée.
Wow. Oh, quelle belle...
C'est joli, hein?
Quelle belle conclusion. Alors, si je vous lisais l'article « Éclat de lumière, la vie humaine modelée par le jour », un article écrit le 27 juin par Monique Durand, collaboratrice au journal Le Devoir.
On écoutait Alpha Rococo, dont le titre, c'est « Lumière », sujet tout à fait à propos. Mm-hmm. Alors, je vous présente un article dont le titre est « Attraction mortelle, la lumière qui tue ». C'est un texte de Alan McLean, biologiste et animateur au Biodôme de Montréal, publié le 24 avril 2015 sur le site espacepourlavie.ca. Viréo aux yeux rouges, cardinal rouge, jaseur d'Amérique. Des cadavres par milliers jonchent le sol. À Lennox, en Ontario, 10 000 oiseaux sont morts durant deux nuits pluvieuses en se heurtant à des cheminées mortes industrielles. En Géorgie, aux États-Unis, 50 000 oiseaux sont morts d'épuisement en suivant les faisceaux lumineux émis par une base militaire. L'éclairage nocturne tue chaque année des dizaines de millions d'oiseaux. Les mortalités sont plus importantes lors des migrations automnales et printanières, surtout si la météo est mauvaise. Ces lumières tuent toutes sortes d'oiseaux. On a compté 450 espèces différentes dans le cas de la seule ville de Toronto.
Et dans ce cas-là, comment on explique le lien entre la lumière et la mort de ces oiseaux?
Après des millions d'années d'évolution, les oiseaux se sont adaptés à l'éclairage naturel émanant du soleil, de la lune et des étoiles. L'ampoule incandescente a été inventée en 1879. Aujourd'hui, donc 136 ans plus tard, les oiseaux ne sont pas encore adaptés à l'éclairage artificiel. Durant l'immigration, beaucoup d'oiseaux voyagent de nuit, s'arrêtent à l'aube, se reposent et emmagasinent des graisses pour la suite de leur voyage. Ils se guident alors sur les étoiles et sur le champ magnétique de la Terre. La plupart des oiseaux ont une vision crépusculaire inférieure à celle d'un humain. La migration de nuit n'est donc pas aisée pour eux. Les petits oiseaux chanteurs, les victimes les plus abondantes, volent à moins de 400 mètres d'altitude et sont très affectés par l'éclairage artificiel. Lors de tempêtes, on parle de bruit, de pluie ou de brouillard, la lumière artificielle frappe les gouttelettes d'eau, diffracte dans tous les sens et crée un halo autour de chacune d'elles. Cela perturbe leur vision et leur sens de l'orientation. Ne sachant plus vraiment où ils s'en vont, les oiseaux tourbillonnent à l'intérieur de ce halo éblouissant et s'épuisent. Certains vont mourir de fatigue, d'autres frapper l'un de leurs congénères ou un mur. Au petit matin, ceux qui ont survécu à cette nuit d'enfer vont se poser au sol, totalement épuisés. Certains seront la cible de prédateurs. D'autres n'arriveront pas à restaurer suffisamment leurs forces et seront peut-être les victimes de la prochaine nuit. Au Québec, les oiseaux meurent aussi à la suite de collisions avec des édifices éclairés la nuit. Il y a pourtant des solutions. Couper l'éclairage nocturne, choisir des luminaires éclairant vers le bas et non le haut, utiliser des lampes stroboscopiques ou faiblement énergétiques, les lampes d'ailes, et surtout minimiser l'éclairage durant l'immigration automnale et printanière, particulièrement lors de tempêtes ou d'épisodes de brouillard. C'était un texte de Alan McLean, publié le 24 avril 2015 sur le site Espace pour la vie. En lien avec le thème du brouillard, justement, un texte de Camille Hazard de l'AFP, publié le 16 juin. Au Maroc, ils transforment le brouillard en eau potable. Une association marocaine utilise désormais des énormes filets pour piéger le brouillard afin de le transformer en eau potable. Ce dispositif permet d'économiser l'argent et les forces des villageois. Transformer le brouillard en eau, cette idée ingénieuse a changé la vie des habitants de 5 villages du sud-ouest marocain, situés à 1225 mètres d'altitude au sommet de la montagne Boutmezguida, dans la région de Sidi Ifni.
Et ça fonctionne comment? C'est ingénieux, ça?
Assez ingénieux. Grâce à une quarantaine d'immenses filets, ils piègent les gouttelettes d'eau qui sont ensuite traitées, mélangées à de l'eau de forage, puis écoulées vers des canalisations jusqu'aux villageois. Moissonner le brouillard, comme disent les résidents, est une technique née il y a une vingtaine d'années au Chili, dans la cordillère des Andes, là où la région est extrêmement brumeuse.
C'est joli comme expression.
C'est intéressant.
Moissonner le brouillard.
Cette technique ne fait qu'imiter la nature, comme la toile de l'araignée, qui a de tout temps piégé l'eau dans ses mailles pour s'abreuver. C'est écologique et cela permet de préserver la nappe phréatique de la région qu'on est en train de vider. Dans une région au climat semi-aride tel que cette région-là, avoir de l'eau en ouvrant un simple robinet est une révolution. Femmes et enfants perdaient en effet plus de 4 heures par jour en moyenne à faire des allers-retours pour puiser de l'eau. Désormais, 92 foyers, soit près de 400 personnes, reçoivent l'eau courante jusqu'à leur domicile sans avoir à franchir les obstacles de la montagne.
Ouais, on a parlé de la pénurie d'eau la semaine passée,
oui,
en Californie.
Hein? Oui. En outre, l'eau de brouillard coûterait 3 fois moins cher que le puisage intensif, malgré la petite contribution que les habitants doivent verser pour disposer d'un compteur. On veut maintenant équiper un maximum de villages aux alentours et remplacer les filets actuels par de nouveaux modèles capables de résister à un vent de 120 km/h. Les filets sont désormais exportables dans d'autres villes du Maroc, dans toutes les régions montagneuses et en front de mer. se félicite Aïssa Derem, le responsable, qui rêve d'en déployer sur tous les sites brumeux marocains.
Donc, ça prendrait un immense filet en Californie actuellement.
Tout à fait.
Ça prend de la brume, surtout.
Ça prend de la brume.
Oui, c'est ça.
Oui, c'était un
On va exporter la brume.
Oui, de Camille Hazard de l'AFP, publié le 16 juin 2015.
Alors, bon, parmi les brèves, je vous parle d'un sujet dont je vous ai parlé déjà à deux reprises dans le passé. Solar Impulse 2, c'est l'avion qui fonctionne avec des piles solaires. Il a repris son vol tout récemment. Il a été bloqué au Japon depuis un mois en raison du mauvais temps. Alors, Solar Impulse 2 a décollé en catimini hier en direction d'Hawaï, au-dessus du Pacifique, afin de poursuivre son défi énergétique solaire autour du monde. Le pilote suisse, André Borschberg, a indiqué sur Twitter avoir atteint le point de non-retour, moment où l'avion n'est a priori plus en mesure de faire demi-tour. Il pourrait arriver à Hawaï d'ici 5 jours.
À quelques informations supplémentaires à propos de la baleine noire dont on parlait tout à l'heure. Elle est en voie de disparition. L'Atlantique Nord est le seul endroit au monde où on trouve encore cette espèce. Elle mesure de 15 à 18 mètres. Les mâles sont un peu plus petits que les femelles. Elle pèse de 30 à 100 tonnes et elle peut vivre plus de 80 ans.
Alors, j'ai parlé du canal de Panama, la première version.
Oui.
Mais vous savez qu'il y a un autre canal qui est à l'esprit des gens. C'est le canal de Nicaragua. Et il a été imaginé dès le 19e siècle. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Et il est ressorti régulièrement des cartons. Et ça a été... Mais le projet a été approuvé le 8 juillet dernier par l'Assemblée nationale du Nicaragua. Donc, c'est pas seulement l'état de projet, là. Ça a été approuvé. Et c'est une entreprise qui est pilotée par une société chinoise. Et ça promet d'être encore plus démesuré qu'au Panama, avec un tracé prévu de 278 kilomètres de long. Vous rappelez, au Panama, c'est 80 kilomètres. Et pour un canal de 230 à 520 mètres de large, et très profond aussi, et c'est beaucoup plus long que celui du Panama, il raccourcirait de 800 kilomètres la route entre New York et San Francisco. Donc, c'est quand même intéressant, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Mm-hmm. Apparemment, c'est approuvé.
Alors, je vous dis que Montréal a maintenant de la compétition. Avec ses 320 kilomètres de pistes cyclables, ses programmes de sécurité et d'apaisement de la circulation et le lancement récent de son programme de vélo partage, Philadelphie est devenue la championne des 10 plus grandes villes et des 25 meilleures communautés cyclables américaines par l'Interbike Advocacy Leadership. Le lobby a même remis l'an dernier un prix au maire de Philadelphie.
Alors, voilà qui met un terme à notre émission. Mais ne soyez pas tristes, hein, nous reviendrons.
Ah oui,
nous
sûrement.
Nous reviendrons sûrement. Avec mes compagnons. avec Marie et Yvan Deslauriers. Marie, on remercie hein, pour les choix musicaux.
Plaisir, hein, plaisir.
Et on remercie aussi, bien sûr, Mathieu Tessier pour la mise en onde.
Surtout. Oui.
Écrivez-nous, canalm.org, vusezvoix.com, vous avez le choix. Canalm, art commercial, vusezvoix.com. Donc, plein d'endroits. Donnez-nous des nouvelles. Dites-nous ce que vous aimez. Bon, ce que vous aimez moins, bien, dites-nous surtout ce que vous aimez.
Parlez-nous de la lumière.
Ben, oui. C'est ça, absolument. On vous souhaite une très bonne semaine pleine de lumière.
Merci
et
à
un
toi
bon
aussi.
Congé demain.
Oui.
Ah oui, c'est juste.
À la semaine prochaine.
Au revoir.